Alors, merci beaucoup aux organisateurs et tout particulièrement à, ça va comme ça, à Thomas Römer de cette amicale invitation. Donc la question que j'aimerais poser dans le contexte qui est le nôtre ici est la suivante en quelque sorte. Les dieux grecs pourraient-ils se fâcher contre eux-mêmes, avoir honte ou porter le deuil de leurs victimes comme des humains souffrant d'une souillure avant de s'en laver ou d'être anéanti? On n'en est certes pas là, hein, mais on n'est pas loin, surtout si on dirige son regard du côté des mères divines. Elles sont plurielles, ces mères, nombreuses et très souvent colériques. Je me contenterai ici de survoler le dossier de quelques-unes d'entre elles qui entretiennent des relations étroites au niveau des récits où elles apparaissent avec la figure de Déméter. Déméter, la déesse éleusinienne. Au cœur de ce réseau, la colère paradigmatique de Déméter est étroitement solidaire du deuil qu'elle porte de sa fille disparue. Ce mythologème est constitué dès le VIe siècle avant notre ère au moins. Il fait de Déméter une figure centrale, référentielle, autour de laquelle s'organise et ne cesse de se composer et recomposer tout un réseau de colères divines et maternelle, des colères suivies d'un épisode d'apaisement, de réconciliation. Je vais considérer l'ensemble de ces colères, avec, dans une perspective un peu cavalière, il faut l'avouer, parce qu'on a très peu de temps, l'ensemble de ces colères et tenter de les mettre en série, en contact les unes avec les autres, en commençant évidemment par Déméter elle-même. La reconversion de la déesse dans l'hymnomérique qui lui est adressée ne ressemble en rien, il faut le dire, à un repentir, et encore moins à une colère soudain retournée contre soi-même, ce qui d'ailleurs n'aurait pas de sens. Mais les conséquences du deuil et de la colère prennent des proportions catastrophiques. La retraite, démesurée même, la retraite de la déesse en abandon représente une menace pour l'existence même des humains, risquant de les ramener à l'état bestial, pré-civilisé. Un apaisement devient donc impératif, d'autant plus que les dieux ont besoin des hommes. Rappelons que Déméter, après avoir vainement erré à la recherche de sa fille disparue, se retire chez les humains dans le palais d'Éleusis. Elle est furieuse contre Zeus, qui a marié leur fille Perséphone à Hadès, l'arrachant à toute communication avec sa mère. Après avoir été distraite de ce qui ressemble à un deuil, déridée par la gestuelle grotesque mais néanmoins rituel d'une servante, Iambe, elle se laisse tenter par un rôle de nourrice et essaye d'immortaliser le petit prince Démophon. L'intervention dans la nuit de la maman de l'enfant, effrayée par la vision de la nourrice devenue magicienne, plongeant son enfant dans le feu, fait rater l'entreprise, ce qui conduit la déesse à révéler sa divinité en laissant éclater sa colère. Elle cesse toute activité au risque de compromettre l'équilibre. Ce dernier épisode ne trouvera son terme qu'avec le retour périodique de Perséphone, ainsi que la construction d'un temple et l'organisation d'un culte, celui des mystères d'Éleusis. Le deuil et la colère auront ainsi conduit à la fondation des mystères, un rite où le souci de la fécondité des champs et du désensauvagement de l'humanité se trouve étroitement solidaire d'une promesse relative à la mort. Essayons de rebondir sur cette donnée archaïque et référentielle, est d'expérimenter, comme dirait Marcel Détienne, dans le champ des mères divines, en prenant comme élément de base ce motif du retournement d'attitude. Nous le retrouvons ailleurs, en effet, déplacé, mais toujours en écho à la donnée éleusinienne. Convoqué au tribunal de la cité, confronté au matricide Oreste, les Érinies, les Furies, perdent leur procès. L'Orestie les présente comme les représentantes du droit de la mère face aux représentants du droit du père. Oreste, soutenu par Apollon, l'ancêtre paternel des Athéniens, et Athéna, fille née sans mère, sortie toute armée du crâne de son père, déesse de l'Acropole. Après leur défaite, contre toute attente, les Érinies abandonnent leur fureur et se transforme en bienveillante, en Euménide, solidaire de la terre athénienne. À la suite d'un retournement génialement négocié par Athéna dans le final de la trilogie échiléenne, elles vont assurer la fertilité des champs et la fécondité des troupeaux. La transformation des Erinnies en Euménides chez Échille semble construite comme un contrepoint harmonique au destin de Déméter dans l'hymne homérique. Cela ne pouvait pas ne pas être perçu par tout spectateur ou lecteur de la trilogie d'Échille, jouée pour la première fois en 458 avant notre ère. Colère et apaisement, colère et réconciliation, on retrouve cette même dynamique dans un récit relatif à une autre déesse, elle aussi présente à Athènes, la mère des dieux, dont le temple se dresse sur l'agora. Avec la mère des dieux, dont le mythe tel qu'il se constitue à la fin du Ve siècle est très évidemment conçu comme un démarquage de celui de Déméter, la transformation émotionnelle est énoncée sur un mode décalé qui, par comparaison, fait ressortir ou révèle chez Déméter une zone d'ombre où l'Éleusinienne apparaît au plus proche d'une Érinnie. Regardons cette affaire qui va nous précipiter dans un réseau narratif d'une étonnante fortune et amplitude. Le cœur de l'Hélène d'Euripide, pièce jouée en 412, adresse un hymne à la mère des dieux sur le thème de la réconciliation. Envisagée comme retournement paradoxal de la colère en rire, la réconciliation de la mère des dieux avec les autres dieux chez Euripide marque le terme d'une souffrance ressentie par la déesse à qui l'on a enlevé sa fille, mais qui se laisse finalement distraire du deuil par l'offrande qu'Aphrodite, à l'instigation de Zeus, lui fait des instruments de musique qui deviendront les siens. Deuil d'une fille disparue, courroux, apaisement. La séquence semble la même qu'à Éleusis, mais si la référence est évidente, le récit relatif à la mère des dieux est construit chez Euripide comme un démarquage systématique de la donnée éleusinienne en direction du sauvage, du pré-civilisé. La Déméter s'appelle Déo chez Euripide. La Déo d'Euripide met fin à son errance dans un paysage de haute montagne et non pas aux confins d'une plaine à blé. Vénérée au son des crotales, c'est les castagnettes de bronze qui relèvent d'un paysage dionysiaque, elle conduit un char attelé de lions. Cette mère Déo, et non pas Déméter, fait grève dans l'épaisseur neigeuse des fourrés, choisissant pour sa retraite un lieu qui n'évoque guère le palais d'Éleusis dans une plaine à blé. Le moment essentiel du récit, toutefois, comme à Éleusis, est celui du retournement d'attitude. D'irritée à bienfaisante, de passive à active, de la colère qui rend stérile à l'activité nourricière. La fin, cependant, propose un nouveau contraste. Il n'est pas question pour cette mère d'un retour de sa fille. Condamnée au deuil sans oubli, c'est au vers 1336, d'une fille au nom qu'il ne faut pas prononcer, une fille qui n'est donc pas Perséphone, elle laisse finalement tomber sa colère, vaincue par Cypris, qui la fait rire en jouant du tympanon. Un texte choral, lui aussi, connu par une inscription d'Épidaure, d'époque impériale, difficile à dater, mais dont l'original est vraisemblablement aussi ancien que le cœur d'Euripide, s'adresse à la mère des dieux, aussi désignée comme grande mère souveraine de l'Olympe. Cet hymne évoque un épisode au cours duquel la déesse, errant dans les montagnes et les vallons, se tient à l'écart du monde des dieux jusqu'à l'intervention burlesque de Zeus, intervention probablement mimée par un acteur qui lance la foudre et s'empare d'un tambourin, frappant les rochers au rythme d'une danse surprenante avant de s'adresser à la fugitive. « Reviens, mère, cesse ton errance dans les montagnes, de crainte qu'il ne t'arrive quelque chose avec ces lions farouches et ces loups au gris pelage. » La déesse répond « Je ne reviendrai chez les dieux que lorsque vous m'aurez accordé le tiers de la mer, le tiers du ciel et le tiers de... la moitié du ciel, la moitié de la terre et le tiers de la mer. Alors je reviendrai. » Ayant ainsi rendu manifeste sa prétention de souveraineté partagée sur les trois régions du monde, elle reçoit le salut du cœur sans que rien n'ait été révélé, ni des causes, ni des circonstances de sa retraite, ni de l'issue de la négociation. Cette mère d'Épidaure est très proche, dans le temps comme dans l'espace, d'une Déméter arcadienne qui a su fasciner Pausanias, l'historien, le touriste, le pérégrin, qui se rend en Grèce, et notamment au cœur du Péloponnèse, au second siècle de notre ère. Dans une des versions que Pausanias rapporte, la Déméter arcadienne, à l'instar de la mère des dieux d'Épidaure, revendique elle aussi, mais en énigme, le ciel, la terre, la mer. Connue comme Érinie, elle est explicitement appelée Érinie, ou Mélaïna, la noire, cette arcadienne est par excellence une déesse de la colère. Pausanias interprète son nom à partir du verbe arcadien Érinuein, qui voudrait dire se laisser emporter par la colère, par le thumos. Elle est distincte de la Déméter éleusinienne. Mais la Déméter éleusinienne est aussi présente en Arcadie. Elles sont voisines sur les territoires d'Arcadie. Pausanias mentionne un sanctuaire de Déméter éleusinienne aux confins de la ville de Telpoussa, où se dressent des statues de Perséphone, de Dionysos aussi, qui côtoient la déesse éleusinienne. Dans les alentours de la même ville de Telpoussa, à l'extérieur aussi, Pausanias découvre, au lieu dit Onkeion, le territoire d'Onkos, le sanctuaire d'une autre Déméter qui, elle, est arcadienne, à proprement parler, est appelée Érinie. Pausanias explique la raison pour laquelle on lui a donné cette épiclèse. Quand Déméter errait au moment où elle recherchait sa fille, Poséidon, à en croire la légende, se mit à la suivre, pris de désir de s'unir à elle. Se transformant en jument, elle s'en alla paître, mêlée au jument d'Onkos. Mais Poséidon se rendit compte qu'il était joué et il s'unit à Déméter, après avoir pris lui-même l'apparence d'un étalon. Sur le coup, Déméter aurait été furieuse, mais dans un second temps, elle aurait voulu, dit-on, déposer sa colère et se laver dans la rivière. À la suite de quoi, elle a reçu deux épiclèses distinctes et deux images distinctes de culte, deux statues présentes dans son temple. La statue de l'Érinie, la colérique, et celle de la Lucia, la purifiée, la lavée par le bain. Déméter, à ce qu'on dit, eut de Poséidon une fille dont on considère qu'il faut taire le nom à ceux qui ne sont pas initiés. Une fille au nom interdit, donc, comme on dirait à Athènes, de la fille disparue de la mère des dieux. Déméter aurait accouché simultanément d'un cheval, le cheval Arion, à la suite de quoi les gens de Telpoussa seraient les premiers chez qui Poséidon fut dénommé Hippios, le chevalin. Ce mythe et ce culte en Arcadie connaissent plusieurs variantes locales que nous rapporte Pausanias, qui se plaît à les mettre en relation les unes avec les autres. C'est ainsi qu'aux traditions du temple de Déméter Érinie à Telpoussa, dans la région du fleuve Ladon, correspondent plus au sud, dans la région du mont Lycée, celles d'un temple consacré spécifiquement à la jeune fille mystérieuse, ce fruit de l'union de Déméter et de Poséidon. En contrebas des murailles de la plus vieille ville du monde, Lycosoura, au pied du mont Lycée, Pausanias décrit au fond d'un vallon le temple de celle que l'on désigne sans la nommer comme la demoiselle, Despoina. Pausanias mentionne devant ce temple trois autels. Un autel pour Déméter, un autel pour Despoina, pour la demoiselle, et un troisième pour la grande mère. En mentionnant ces trois autels, Pausanias fait clairement une distinction entre deux mères différentes. Une Déméter normale, correspondant plus ou moins à la déesse d'Éleusis, et une mère des dieux, ou Mégaléméter, correspondant à la Déméter Érinie de Telpoussa. Ces deux mères accompagnent dans le culte une fille non nommée, innommable, la demoiselle, qui semble être distincte, elle, de Perséphone. À l'intérieur du temple de Lycosoura se dresse un ensemble sculptural dû à Damophon, qui serait taillé dans un seul bloc de pierre trouvée dans les profondeurs du sol local. Déméter et la demoiselle et Despoina sont accompagnés d'Artémis et d'un titan local, Anitos, dont on rapporte qu'il a élevé Despoina. Pausanias, pour commenter ce groupe monumental, se réfère à la fois à la statue de la mère des dieux sur l'agora d'Athènes, il la mentionne là, hein, et à des spéculations sur l'origine du mythe orphique de Dionysos et des titans. Ces allusions, contrairement à ce que l'on affirme parfois, ne sont probablement pas de simples associations d'idées, mais bien plutôt des indices précieux sur l'arrière-plan de la théologie locale, rapprochant le mythe de Despoina de celui de la passion de Dionysos. En s'élevant un peu au-dessus du temple, Pausanias rencontre un mégaron, un local où les Arcadiens célèbrent des rites et sacrifient de très nombreuses victimes à la demoiselle, selon une procédure quasi ménadique. Chacun sacrifie une bête qu'il possède. Au lieu de trancher la gorge des victimes comme dans les autres sacrifices, c'est un membre au hasard que chacun détache en coupant l'animal offert, en arrachant le membre. Pausanias ajoute qu'il n'est pas de divinité que les Arcadiens vénèrent plus que cette demoiselle, fille de Poséidon et de Déméter. Son appellation commune est la demoiselle Despoina. De la même façon, dit Pausanias, que l'on donne à la fille de Zeus le nom de Corée, alors même qu'elle a un nom propre, Perséphone. Mais l'autre n'a pas de nom propre. Pour le vrai nom de Despoina, elle en a un, pardon, parce que Pausanias ajoute, mais pour le vrai nom de Despoina, je n'ai pas osé le divulguer aux non-initiés. Voilà, ça fait partie du rite. On peut résumer le dispositif mis en place en Arcadie de la manière suivante. Dans la région de Telpoussa, Déméter Erinie est à Despoina, ce que dans la région de Lycosoura, la Mégalémétère est à Despoina. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. De Lycosoura et du Lycée, Pausanias se dirige en direction de Phigalie, au-dessus des gorges de la Neda, où il va rendre visite à une troisième variante de la Déméter arcadienne, la plus importante. Pausanias se dirige vers une caverne consacrée à une Déméter, Mélaina, la Noire. À l'instar des habitants de Telpoussa et de Lycosoura, les Phigaliens ont un mythe sur l'union de cette Déméter avec Poséidon, et ils disent qu'elle donna naissance à celle que les Arcadiens nomment la Demoiselle. Ensuite, le scénario arcadien se superpose au scénario éleusinien. Par colère contre Poséidon, et en signe de deuil pour l'enlèvement de Perséphone, la déesse revêt un vêtement noir et se retire dans la grotte. Cette retraite aux allures de grève dure longtemps. Les fruits de la terre périssent, la famine tue une bonne partie de l'humanité. Les dieux ignorent où Déméter se cache. Mais voilà, l'Arcadie, il y a le dieu Pan avec ses pattes de bouc, il est comme un chamois, il grimpe sur la montagne, il voit la petite Déméter cachée dans une grotte et il dit à Zeus où elle se trouve. Et Zeus envoie les déesses du destin qui persuadent Déméter de déposer sa colère et de mettre fin au deuil. Les Phigaliens racontent qu'en échange de ce retour à la norme, ils ont dû se comporter comme les princes d'Éleusis s'étaient comportés envers Déméter. Les princes d'Éleusis avaient élevé le sanctuaire des mystères. Les Phigaliens, eux, vont consacrer la grotte à Déméter et y dresser une statue de bois. Cette statue placée sur un rocher avait l'aspect d'une femme, mais sa tête portait une crinière de cheval et il en sortait des formes de serpents et d'autres bêtes sauvages. Elle portait une tunique qui descendait jusqu'aux pieds et elle tenait dans une main un dauphin et dans l'autre une colombe. Tête de cheval, dauphin, colombe. On a de nouveau la souveraineté sur les trois registres du monde des vivants, comme à Épidaure. Ce que les Arcadiens racontent à Pausanias apparaît comme le produit d'un démarquage avec la tradition éleusinienne. Ce n'est pas le lieu ici d'explorer plus avant les procédures et les outils d'un tel atelier théologique. Point n'est besoin de supposer que ces mythes arcadiens remontent à la nuit des temps. Au contraire, tout porte à croire qu'ils sont le résultat d'un travail intentionnel et relativement tardif. On connaît, du côté de Dionysos notamment, plusieurs ateliers de ce type qui ont contribué dès le IVe siècle avant notre ère, à reconfigurer le paysage religieux grec, au risque de compliquer parfois la tâche des historiens, voire de les dérouter. Je passe très vite. Il me suffira ici d'insister sur le fait qu'en ce qui concerne les mères, le motif de la colère et de son renversement ne cesse d'être repris et réinterprété dans une perspective qui n'est pas celle des piété privée ou associative, à la différence de ce qui se passe avec Dionysos, et Dionysos parfois plus ou moins orphique d'ailleurs, mais qui relève en Arcadie au contraire de décisions politiques, à l'instar d'ailleurs des voisins en Messénie, à Andania, qui ont reformulé les mystères à l'époque hellénistique. On a affaire à des rites réélaborés dans le cadre d'une religion civique. Dans un tout autre contexte, à l'occasion d'un développement critique sur les mystères, Clément d'Alexandrie, au début du IIIe siècle de notre ère cette fois-ci, peu de temps après Pausanias, interroge l'étymologie des mots « orgia » et « mysteria ».« Orgia », dit-il, dérive d'orgue, colère, renvoyant au récit d'une colère de Déo contre Zeus. Ta mysteria, les mystères, provient selon lui de musos, souillure, renvoyant à une faute commise contre Dionysos. Clément ne précise pas immédiatement de quelle colère pour Déo ni de quelle faute contre Dionysos il peut s'agir. Mais dans la suite de son analyse, ce ne sont pas la tristesse et la colère de Déméter privée de sa fille Perséphone dont il parle, mais bien de la colère d'une divinité à la fois proche et différente qu'il nomme Déo et dont il fait une victime non pas de Poséidon, cette fois comme dans les versions arcadiennes, mais de Zeus, son fils, qui la viole. Comme dans le cas des variantes arcadiennes, le mythe éleusinien en référence auquel s'élabore ce récit n'est pas oublié, mais il est profondément modifié. Une modification du même ordre intervient aussi avec l'introduction de Dionysos dans cet ensemble. Cette introduction explique la présence de Zeus, père de Dionysos, et non de Poséidon. La souillure devient celle des titans orphiques, assassins de l'enfant Dionysos. Clément se réfère donc à un corpus mythologique réélaboré en référence à la tradition éleusinienne classique qui réunit, tout en les transformant radicalement, la geste de Déméter à la passion orphique de Dionysos. Pour reprendre une formule de Fritz Graff, on a affaire ici à un bricolage rituel, basé sur une trame à la fois éleusinienne et bachique. Le rite que Clément interprète sur la base de cette trame concerne finalement les rites adressés à la mère des dieux dans l'Empire romain, et plus précisément le cryobol, une variante du taurobol, où la manipulation des testicules du bélier sacrifié implique un rapport à la castration en l'occurrence d'Attis, l'amant de la mère. Alors voilà les grandes articulations du récit. J'en ai encore pour deux minutes. Les grandes articulations de ce nouveau scénario sont les suivantes. Zeus s'unit à Déo en prenant la forme d'un taureau. Déo, à la fois, qui est à la fois Rhea et Déméter, la mère et l'épouse de Zeus, Déo est enragée, donc Déo violée, est enragée par la colère, elle se transforme en une redoutable brimo. Pour l'adoucir, Zeus fait semblant de s'être châtré. Et il jette au sein de Déo les testicules qu'il a arrachés à un bélier. C'est en relation à cela, précise Clément, que les initiés, il ne faut pas entendre les initiés au mystère d'Éleusis, mais bien les initiés au mystère d'Attis et de la mère des dieux, prononcent les symboles suivants. J'ai mangé dans le tambourin, j'ai bu à la cymbale, j'ai porté le kernos, je me suis glissé sous le voile. Le récit de Clément se prolonge avec la naissance de Phérephatta, fruit de l'union de Zeus avec Déo Brimo. Zeus s'unit à sa fille Phérephatta sous la forme d'un serpent, et l'enfant qui résulte de ce nouvel inceste a l'apparence d'un taureau. Ce dernier taureau renvoie à Dionysos et au récit orphique de son démembrement, qui feront effectivement l'objet d'un développement dans la suite du texte de Clément. Le nom de la divinité dont la colère est au principe de tout est Déo. Clément précise qu'elle se confond à la fois avec Déméter et avec la mère des dieux. Ce brouillage généalogique remonte, au-delà de la source immédiate de Clément, à une réflexion grecque sur les équivalences divines attestées dans un contexte d'allégorie philosophique dès le papyrus de Derveni, à la fin du 5e siècle, dont le texte remonte à la fin du 5e siècle avant notre ère. La colère de Déo et son apaisement à la suite d'une ruse scabreuse dans le récit de Clément correspond au retournement d'attitude de la mère des dieux qui, elle aussi, oubliait sa colère dans le cœur de l'Hélène d'Euripide. Il s'agissait alors d'une déesse décrite comme une Déméter, empruntant son territoire et ses attributs à Rhea, ce que nous rencontrons chez Clément, en référence à des mystères phrygiens, découle ainsi de manière indirecte d'un vieil héritage. Le récit rapporté par Clément témoigne d'un travail de bricolage, un travail effectué par une pensée proche de l'orphisme qui a pour intention de rattacher la mater magna romaine impériale chez Clément à une philosophie des mystères. Que des spéculations de ce type débouchant sur des formes rituelles nouvelles aient pu jouir d'un certain succès avant même l'époque de Clément, nous en avons un indice dans ce que Pausanias rapporte de la Déméter Erinie. Comparable à celle de Brimo, la colère de la Déméter arcadienne est suscitée, elle aussi, par le viol, celui qu'elle subit sous forme de cavale domptée par Poséidon Hippios. Le coupable est alors un frère de Zeus. La déesse met au monde une fille infernale, la demoiselle, au nom que l'on doit taire, distincte de Perséphone, mais qui constitue un indéniable parallèle à la Ferefata de Clément. Pour conclure, relevons que ce travail de réélaboration et d'adaptation finira, mais tout à la fin, par entraîner la mère à se repentir de sa colère. C'est du côté d'Attis que cela interviendra, et c'est Pausanias, lui encore, qui en est le témoin. Il transmet ce qu'il dit être une version locale du mythe d'Attis et de la mère des dieux. La mère des dieux est amoureuse d'Attis, mais Attis épouse une jeune fille. La mère des dieux, furieuse, suscite la folie d'Attis qui s'auto-châtre et meurt. Et à ce moment-là, nous dit Pausanias, dans la version de Pausanias, la mère des dieux, qui s'appelle Agdistis dans cette version, regrette ce qu'elle a fait contre Attis. Metanoia esren. Elle demande en vain que Zeus ressuscite Attis. Il y a une seconde version du mythe chez Arnob. J'ai fini maintenant. J'ai vraiment fini. Une seconde version du mythe chez Arnob qui ignore Pausanias, mais qui cite ses sources. Et les sources sont éleusiniennes. Il s'agit d'un... Parmi les sources citées par Arnob, il y a un prêtre d'Éleusis qui a travaillé à la réélaboration du mythe de Sarapis à Alexandrie. C'est intéressant. Ça nous donne une idée des milieux, des ateliers théologiques où s'élaborent ces nouvelles versions du mythe. Ces ateliers sont d'inspiration éleusinienne, ce qui n'est guère surprenant. Donc, pour finir, vraiment, si la mère des dieux est encline à piquer des colères, quitte à causer finalement la mort de son amant, elle finit par apparaître quand même susceptible de le regretter, mais c'est dans une version qui date sous la plume d'un auteur polythéiste de l'époque chrétienne. Voilà, je vous remercie.